7h38, 22 mars, dimanche. Sabrina Rivet, donc l'avion d'Air Canada, est rentré de Casablanca à 23h09 exactement à l'aéroport international de Dorval-Trudeau.
Et j'ai pu voir de nombreuses personnes avec des visages de soulagement parce que pour certaines personnes, ça faisait déjà plusieurs jours qu'ils tentaient d'obtenir un siège pour pouvoir revenir du Maroc au Canada parce que les frontières qui ont été fermées la semaine dernière au Maroc. Et puis, en fait, c'est le premier avion affrété par le gouvernement canadien, donc avec des ressortissants canadiens, à atterrir au Canada. Alors, c'est arrivé hier à 23h10 du côté de l'aéroport de Montréal. Et j'ai pu m'entretenir avec de nombreuses personnes qui venait justement du Maroc. Et écoutez, j'ai vu tellement d'histoires. J'ai vu une maman qui voyageait avec son enfant de 6 mois et de 3 ans faire tout le voyage, toute la problématique autour de ce voyage-là. J'ai vu également un homme qui attendait sa femme. Sa femme était partie à Casablanca pour aller aider en fait son père qui était malade. Et là, elle a dû choisir en fait entre rester au Maroc pour aider son père qui était malade et revenir au Canada. Elle a décidé de revenir au Canada auprès de son mari, mais également de ses enfants. Alors, c'est ce qui l'a motivée aussi à revenir au Canada. Alors, plein de situations déchirantes. Et bien entendu, ça a été très difficile également pour obtenir leur fameux billet pour revenir au Canada. Et je vais vous laisser entendre certaines personnes que j'ai rencontrées hier.
Sincèrement, c'était pas facile. Surtout qu'il y a eu des fraudes au niveau du code. Je ne sais pas qui a lancé le code à d'autres personnes. Et ça a bogué, ça fait tout un problème au Maroc.
C'était compliqué parce qu'il fallait faire ça en ligne, puis parfois ça plante, puis les cartes, il y a des cartes qui ont refusé. Là, parce que, en tout cas, moi j'ai fait 2 tentatives, puis dans le deuxième ça a marché, puis j'ai des amis qui ont été en contact, qui ont fait plusieurs tentatives, ça n'a pas marché, alors ils ont resté là-bas. Puis c'est pas tout le monde qui était chanceux de réussir à avoir le billet. Puis, je suis vraiment content de retourner avec mes enfants. Là.
Officiellement au Maroc, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question, est-ce qu'il y a beaucoup de cas? Officiellement. Et là encore là, comme on disait hier, et on va repréciser aujourd'hui, que les statistiques, évidemment, ne sont pas en temps réel. Oui, on fait une comptabilité, mais à partir de tests, c'est 93 cas en ce moment au Maroc et 3 décès officiellement.
Effectivement. Alors, ce qu'on m'a dit, c'est que là-bas, quand même, ce n'est pas la panique, mais quand même, il y avait un couvre-feu. Tous les commerces étaient fermés. Alors, pour ces gens-là, il était temps qu'ils reviennent au Canada. Et juste pour vous dire également, parce que moi, depuis le début, en fait, de la crise, de la pandémie, de la COVID-19, c'était la première fois que je me rendais du côté de l'aéroport de Montréal. J'avais des gants, des manches longues pour m'assurer de ne pas entrer en contact directement avec des gens qui revenaient de voyage. Et j'ai cherché du Purel dans l'aéroport, je n'en ai jamais trouvé.
Pardon?
J'ai dû aller me laver les mains dans la salle de bain. Mais sinon, au niveau des mesures de sécurité, tout ce que j'ai vu relativement à la COVID-19, c'était sur l'espèce de tableau, la télévision où c'est marqué les arrivées et tout. Là. À un certain moment, ça alternait entre les arrivées des avions et ensuite on mettait un message de coronavirus. Mais sinon, moi, pour me nettoyer, il n'y avait pas de lingette désinfectante.
Pas de distributeur.
Aucun distributeur de purée. Écoute, il y en a partout.
Donc, écoutez, c'est un aéroport international. Là. Je sais qu'il y a moins de monde qui circule, mais quand même. Donc, pour bien comprendre, seulement les salles de toilette et savon et eau.
Oui. Alors, dans le fond, moi, je suis arrivée à l'aéroport et je suis allée à l'arrivée. Donc, c'est un point de rencontre pour tout le monde. Et impossible pour moi de trouver du Purel pour me laver les mains. Il a vraiment fallu que j'aille à la salle de bain pour pouvoir me laver les mains. Alors, ça a été une grande surprise parce que je pensais, là, on est quand même... ça fait un petit bout là, que ça a commencé. Là. Je pensais avoir plus de mesures de sécurité que ça. Et non. Et moi, j'ai vu même personne du gouvernement sur place. Je sais qu'à l'intérieur, donc lorsque les gens ont passé les douanes, on m'a dit oui, on nous a fortement conseillé d'aller en quarantaine. Il y en a certains qui sortaient avec un papier. Là. Mais sinon, pour les gens, disons, qui attendaient des gens qui arrivaient de l'extérieur, aucun moyen, à l'exception d'aller à la salle de bain pour se nettoyer les mains.
Alors, merci.
C'est ça.
Merci beaucoup, Sabrina Rivet. Bien sûr, on compte sur Sabrina jusqu'à 14 heures avec nous pour remettre à jour toutes les informations et dire ce qu'il y en a des informations. Mm-hmm. Je ne veux pas parler tout de suite de statistiques parce que rien n'est anormal dans les statistiques, bien que ces statistiques soient vraiment effrayantes. L'Italie, bien sûr, qui devrait passer le cap des 5000 décès au cours des prochaines heures. Mais encore là, c'est très important de dire que ceux qui ont fait les projections n'étaient pas des projections pessimistes, optimistes. C'était une tendance, donc ils ne sont pas surpris. Il ne faut pas se surprendre que les chiffres évoluent à ce rythme, notamment au niveau du taux de propagation, au niveau du nombre de personnes qui récupèrent, et on doit authentifier ces cas de personnes qui ont attrapé le virus et en ont guéri. Et bien entendu, le nombre de décès. Il y a en Inde, je vous ai parlé beaucoup de l'Inde, pourquoi? Parce que potentiellement, je dis potentiellement parce qu'on se chicane entre l'Inde et la Chine pour savoir lequel des pays est le plus populeux. Je pense du côté de l'Inde avec près de 1,5 milliard d'habitants. On est aujourd'hui en répétition un confinement national. Essayez d'imaginer un pays d'1,5 milliard d'habitants en confinement de 14 heures. Alors, on a demandé à la population et on nous dit que dans la capitale, à la Nouvelle-Delhi et dans l'autre grande ville, la deuxième plus grande ville, ce sont toutes des grandes villes en Inde, mais à Mumbai, qu'on appelait anciennement Bombay, les gens se conforment aux instructions. On a vu des endroits qui étaient bondés de monde auparavant. Les gens écoutent la consigne. Est-ce que nous allons passer tout de suite à notre prochain invité? Je vous le présente. Le docteur Alex Carignan est microbiologiste infectiologue au CU 3S de l'Estrie. Il est aussi professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Docteur Carignan, bonjour.
Bon matin, Monsieur Houd.
Monsieur Carignan, docteur Carignan, la région, votre région, est devenue un des foyers de contamination. Beaucoup de gens très inquiets, notamment dans les municipalités de Granby et Bromont. Quel est votre avis là-dessus?
En fait, il faut s'attendre à ça. Je vous dirais, avec la dissémination du virus, on s'attend à voir des foyers un peu partout au Québec. Bon, il semble s'en dessiner certains. Pour l'instant, les données de mes collègues de la santé publique, les autorités de la santé publique nous montrent qu'il n'y a pas de transmission communautaire à grande échelle, mais en fait, c'est en surveillance étroite parce que dès qu'il y a un cas, il y a une surveillance accrue des contacts étroits de cette personne-là. On regarde s'il y a une génération secondaire de cas et ainsi de suite. Dans certains cas, bon, on le mentionnait hier dans les médias, même le directeur de la santé publique le mentionnait, il y a des gens qui n'ont pas respecté malheureusement le confinement, des gens qui étaient des cas confirmés, donc c'est certain que ça nous inquiète, puis ça renforce le message. Ben, je vous dirais que ça s'applique à tout le monde maintenant de rester à la maison, on demande aux gens de le faire, c'est la façon la plus simple de prévenir la transmission, puis évidemment, c'est d'autant plus important pour les cas confirmés. On n'y arrivera jamais si les gens confirmés se mettent à déambuler dans les rues.
Docteur Carignan, c'est très important ce que vous dites parce que vous êtes un scientifique et tous les scientifiques actuellement l'affirment. Nous sommes sans moyen miracle. Je parle du côté médicaments et vaccins, très certainement, pour lutter contre cette pandémie mondiale. Cependant, si on applique à la règle, les procédures pour tenter de freiner la propagation, est-ce que vous croyez, vous, en tant que scientifique, que ça va donner des résultats quand on va faire un premier bilan de ces mesures dans 2 ou 3 semaines?
Mais vous parliez un peu plus tôt de la discipline des gens en Inde. C'est ce genre de discipline-là qui peut nous aider. En Chine, l'épidémie était enrayée avec des moyens très simples. On parle d'isolement des cas, de détection des cas, isolement des malades et distanciation sociale. Donc ça, c'est 3 principes qui sont très, très simples, mais s'ils sont appliqués de façon très rigoureuse, on va y arriver. On a eu la chance au Québec, on est un peu en retard, entre guillemets, dans l'épidémie. Elle est arrivée un peu plus tard chez nous, donc on a eu la chance d'appliquer ces mesures-là plus rapidement. Je pense que notre gouvernement a été très proactif, les autorités de santé publique aussi, pour mettre en place ces mesures-là qui sont difficiles, on doit le dire. Moi-même, je les vis au quotidien avec mes enfants, ma conjointe. On ne voit plus les amis, la famille, mais c'est important. C'est la seule façon, c'est la seule chose qui peut nous sauver actuellement.
Docteur Carignan, parlons de ce coronavirus que nous, on désigne comme la COVID-19. Il y a aussi une autre dénotation qu'on appelle le novel SARS-CoV-2. C'est peut-être plus compliqué. C'est un syndrome donc respiratoire aigu sévère. on ne fait que parler depuis 72 heures de peut-être le rôle que pourrait jouer l'hydroxychloroquine, qu'on connaît déjà, qui est un médicament pour lutter contre la malaria, qui pourrait combiner à un antibiotique, donner des résultats intéressants. Est-ce que c'est trop tôt pour vous pour qu'on puisse placer nos espoirs dans cette combinaison de deux médicaments?
Bien, il n'est pas trop tôt pour placer nos espoirs. Je pense que c'est une option intéressante, montrer des effets in vitro très intéressants. Des études, bon, chez des patients, mais très, très préliminaires, qui nous montrent aussi que ça pourrait être une arme intéressante. Par contre, avant de généraliser, d'en donner à tout le monde, c'est important d'avoir des études cliniques solides où est-ce qu'on l'a étudié chez des patients, on a vu des effets chez des patients infectés, parce que on a vu justement cette semaine, on plaçait beaucoup d'espoir à un autre médicament qui s'appelle le Caletra, qui est un médicament utilisé pour les patients qui ont le VIH. Je vous dirais que dans le milieu médical, ça se parlait beaucoup depuis quelques semaines. Puis là, cette semaine, on a une étude qui démontre que malheureusement, ça n'a pas d'efficacité. Mmh. Donc, avant de passer souvent du laboratoire, oui, il peut y avoir un effet en laboratoire. Aux patients, il y a une grosse marche à monter. Puis c'est ce qu'on va voir. Il y a beaucoup de gens actuellement qui s'affairent à vérifier l'effet de la chloroquine, mais actuellement, il y a beaucoup de gens qui doivent prendre cette médication-là au quotidien. Donc, si on vide les stocks et puis les gens qui en ont réellement besoin n'y ont plus accès, ça pourrait être problématique.
Et c'est très bien de le rappeler, parce qu'il y a des gens notamment qui, je crois, prennent des gens qui souffrent du lupus. Et on ne veut pas leur enlever ce médicament-là, parce qu'avant même le coronavirus, ils en avaient besoin.
Oui, absolument. C'est un bon exemple. Là. Différentes formes d'arthrite, où est-ce qu'il peut être utilisé. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais on peut l'utiliser en prévention de la malaria, même en traitement dans certains cas. Donc, c'est pas banal. Là. C'est un médicament qu'on utilise déjà. Puis je vous dirais que les réserves mondiales déjà s'amenuisent en raison de cet espoir-là. Je pense qu'il faut aussi prévenir les gens. On peut en retrouver parfois sur Internet, mais là, ça, j'incite vraiment pas les gens à commander ça de ces façons-là. D'abord, il y a beaucoup de contrefaçons et encore une fois, on doit le réserver aux gens qui en ont réellement besoin.
Docteur Carignan, j'ai lu un éditorial, ce qu'on appelle en anglais là, un op-ed, opinion éditoriale de Tom Frieden. Le docteur Tom Frieden a dirigé pendant plusieurs années le CDC à Atlanta, le Centre de prévention et de détection des maladies infectieuses, notamment les grands virus. Il dit ceci, Tom Frieden, « Ne plaçons pas tous nos espoirs, immédiats en tout cas, dans la réalisation du fameux vaccin miracle. » Il a dit « Mettre au point un vaccin, ce n'est pas si facile. Il y a trois phases importantes et malheureusement, il faut penser que des fois, on pense avoir trouvé la bonne solution, mais que le vaccin ne s'avère pas efficace. Est-ce que vous croyez à ce que le docteur Frieden dit? Prudence, nous ne disposerons pas probablement d'un vaccin contre la COVID-19 rapidement.
Bien, assez clairement, pour le contrôle de l'épidémie actuelle au Québec, au Canada, on ne doit pas compter sur le vaccin. On doit compter sur les trois mesures dont on parlait tout à l'heure. C'est la seule chose qui va nous aider à contrôler la propagation du virus dans le vaccin. C'est vrai que le développement des vaccins est long. Actuellement, il y a beaucoup d'espoir. Effectivement, ça n'a jamais été aussi rapide pour le développement d'un vaccin. On parle déjà de patients qui sont dans des essais cliniques pour différents vaccins. Et en plus, il y en a plusieurs types. Il y a différents mécanismes de vaccins qui sont en développement. Donc, ça maximise les chances qu'au bout de la ligne, il y en ait un qui réussisse. Il y en a plusieurs qui sont prometteurs, mais on doit passer effectivement par différentes étapes de développement clinique pour s'assurer que le vaccin est non seulement efficace, mais aussi sécuritaire. Je vous dirais qu'avant la crise, on parlait beaucoup de sécurité des virus, des vaccins. Les gens sont inquiets lorsqu'ils reçoivent des vaccins. Là, plus personne parle de ça. On veut rapidement un vaccin, mais c'est important de s'assurer que le vaccin est sécuritaire lorsqu'on l'administre largement dans la population. Je pense que de façon réaliste, est-ce que dans 12-18 mois, on peut avoir accès à un vaccin? C'est possible. tant mieux. Éventuellement, s'il y a d'autres vagues de ce virus-là, on aura une arme supplémentaire, mais actuellement, on doit se concentrer sur nos efforts et rester à la maison.
Ça, c'est très important. Et venant de vous, Dr Carnian, d'abord, merci. Une entrevue éclairante. Vous l'avez fait avec précision et vous le rappelez également. Je crois que c'est très important. Le Dr Frieden, que j'ai cité tout à l'heure, qui dirigeait le CDC à Atlanta pendant 4 ans, rappelle la même chose. Bill Gates, vous allez me dire qu'est-ce qu'il connaît là-dedans. Non, Bill Gates, à sa fondation avec sa femme, il a investi des milliards de dollars pour prévenir justement le monde qu'une pandémie mondiale serait notre principal ennemi. Et Bill Gates lui-même dit, pour le moment, et êtes-vous d'accord en terminant, Dr Carnian, nous luttons à main nue, mais les mesures que nous pouvons prendre peuvent faire toute la différence.
Oui, en fait, on fonde beaucoup d'espoir sur le système de santé. Tout le monde travaille très fort. C'est une véritable fourmilière. Les gens, déjà, on sent de la fatigue tellement ça travaille fort, mais c'est tout le monde au quotidien qui peut faire la différence. C'est pour éviter d'emplir nos hôpitaux.
Merci.
Pour rester à la maison. Merci.
Merci, Dr Carnian.